le rayon BD, Tif et Tondu, une reprise au poil.
Vous êtes bien chez Tif et Tondu, mais nous sommes sur une enquête difficile. Si vous pouviez nous aider d'ailleurs, ça ne serait pas de refus. Alors voilà, un vieux milliardaire a légué sa fortune à son beau-fils, mais celui-ci est en prison pour trafic d'œuvres d'art. Alors sa fille hérite du magot, mais celle-ci s'est mariée à un avocat du Pérou qui a empoisonné la femme du notaire ayant enregistré le testament du milliardaire et aurait modifié le testament en faveur du frère de l'ancienne femme du notaire qu'on a retrouvé empoisonné ce matin. Alors qui a fait le coup? Si vous avez une idée, n'hésitez pas à la laisser après le signal sonore. Merci.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le Rayon BD, l'émission de bande dessinée de France Culture pour une émission aujourd'hui consacrée à l'une des sorties les plus attendues de ce début d'année et attendue depuis longtemps, la reprise de Tif et Tondu par Blotch et Robert qui sont mes invités aujourd'hui. Tif et Tondu sont des icônes de la bande dessinée franco-belge qui figurent aux côtés de Gaston, des Schtroumpfs, de Boule et Bill et d'autres parmi les personnages stars du journal Spirou. Tout le monde connaît leur tête, tout en rondeur, copie conforme l'une de l'autre, sauf que celle de Tif est glabre, pas un poil sur le caillou, tandis que celle de Tondu est hirsute, cheveux et barbe noires et drues. Tif et Tondu sont nés la même année que le journal de Spirou, en 1938, sous la plume de Fernand Diner, et sont, après quelques années d'hésitation, devenus véritablement eux-mêmes, à partir de 1949 et de l'arrivée au dessin de Willy Maltette, plus connu sous le nom de Will, qui les a dessinés jusqu'en 1990. Puis leurs aventures ont continué jusqu'en 1997, et depuis bientôt 25 ans, ils étaient un peu oubliés. Il leur a été plus encore oublié si les éditions Dupuis ne faisaient pas un extraordinaire travail avec leur patrimoine, et je dois signaler tout de suite qu'une nouvelle intégrale est en cours de publication, très belle, très bien documentée, avec toutes les aventures dans l'ordre chronologique. Le tome 4 de cette intégrale est sorti le 10 janvier. Mais voilà que comme Blake et Mortimer, comme Corto Maltese, comme Astérix et comme tant d'autres, Tif et Tondu sont repris. Et pas par n'importe qui, puisqu'ils sont repris par Blotch, qu'on ne présente plus, l'un des plus grands auteurs de bande dessinée d'aujourd'hui. Grand prix de la ville d'Angoulême il y a déjà 11 ans, en 2009. Bonjour Blotch.
Bonjour.
Blotch qui reprend donc Tif et Tondu, mais pas seul, puisqu'il fait équipe avec quelqu'un qu'il connaît bien, mais que nous connaissons peu, et qui signe le scénario de cette nouvelle aventure. Il est le frère de Blotch, il s'appelle Robert. Bonjour Robert.
Bonjour.
Robert, je disais qu'on vous connaît moins que votre grand frère. Alors, peut-être un mot pour vous présenter, et peut-être d'abord ce pseudonyme. Blotch, on sait d'où ça vient. Ça vient du journal de Spirou, puisque c'est un des héros des Tuniques Bleues. Robert, ça vient d'où?
C'est le nom de ma femme. C'est un hommage à ma femme. Elle s'appelle Robert, comme le prénom, et j'ai anglicisé tout ça.
Pour en faire un voleur.
Pour en faire un voleur.
Alors, je dis qu'on ne vous connaît pas, mais vous apparaissez pourtant dans un certain nombre de livres de votre frère. Je pense au Petit Christian, qui est paru il y a longtemps, 2002 pour le premier tome, je crois.
En 98.
Au 98. Et le second, quelques années plus tard.
En 8.
En 2008, c'est ça.
Mais à vrai dire, le Petit Christian date de 1988. Vous êtes parti de mon travail de diplôme aux Arts Déco de Strasbourg. Donc, ça a plus de 30 ans.
Ça a plus de 30 ans. Et Robert figure donc dans ces livres, puisque ça raconte votre enfance à tous les deux en Alsace, au milieu de vos héros, John Wayne, Lucky Luke, Raon et quelques autres. Et vous apparaissez là-dedans, Robert, avec une tête qui ressemble un peu à une tête de Playmobil, d'ailleurs, dans ce livre. Vous avez grandi ensemble, vous avez eu les mêmes lectures, vous êtes formés au même creuset, on peut dire.
Oui, oui, oui. Ouais, c'est Blotch qui initiait et après ça s'écoulait doucement vers moi. Je passais derrière et je prenais les BD qu'il achetait, oui.
Alors j'ai parlé du journal Spirou, c'était quelque chose d'important pour tous les deux, pour Robert d'abord.
Oui, bien sûr. Autant que Mickey Parade, Pifou, Pif.
Moi, j'étais très Picsou, hein, pour ma part. C'est-à-dire, Picsou, Mickey Parade. Je pense que ça damait le pion au reste. L'autre grand journal qui traînait à la maison à cette époque-là, c'était Pif Gadget. Je dois dire que Tintin et Spirou, moins, en tout cas, le magazine, mais on avait ce qu'on appelle des recueils. Des volumes de plusieurs...
Il existe encore pour le journal Spirou.
Voilà. Donc c'était plutôt des recueils qui regroupaient plusieurs numéros plutôt que les numéros isolés. Si moi j'allais chez le marchand de journaux, c'était d'abord pour Picsou et Mickey Parade.
Alors comme aujourd'hui on parle de Tif et Tondu, on va être dans l'univers du journal Spirou et je voudrais commencer en vous faisant entendre une archive. On est encore au début de l'année, c'est un peu tard pour présenter ses vœux, mais je voudrais vous faire entendre ceux de quatre grands auteurs du journal Spirou.
C'est la coutume d'adresser des vœux le jour de l'an. Alors je vous propose d'en adresser aux jeunes qui nous écoutent en ce moment. Maurice, si vous aviez des vœux à adresser aux jeunes, qu'ils soient dessinateurs ou non.
Je dois dire que si vous voulez parler des jeunes qui veulent faire de la bande dessinée, je suis un peu déçu parce que ceux que je vois défiler chez moi, ils ont un état d'esprit assez décevant. La première chose qu'ils vous demandent, c'est que dois-je faire pour gagner le maximum d'argent avec un minimum de travail en un minimum de temps. Et je dois dire, c'était pas du tout l'état d'esprit que nous avions en commençant, en tout cas.
Bon, ceci dit, vos vœux.
Ah, mes vœux, de la réussir malgré tout, quoi.
Et Willy Maltête.
Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je crois que... Bon, moi, j'ai un fils qui fait de la bande dessinée. J'ai essayé de le décourager. Hein, parce que, bon, c'est un métier quand même assez dur. Et bon, je lui souhaite, et à tous les autres aussi, de réussir.
Franquin.
Je leur souhaite de dessiner beaucoup parce que c'est un plaisir de dessiner. C'est d'abord un plaisir, même pour les professionnels, ça doit rester un plaisir. On est heureux quand on dessine.
JG.
Mais de toute façon, souhaitez-leur n'importe quoi, ils feront quand même une carrière ou pas. Le principal, c'est qu'ils persévèrent. Moi, je leur souhaite de persévérer. C'est la première condition, vraiment. Contre vents et marées, parce que c'est vraiment contre vents et marées au début. D'abord, les pistes sont encombrées drôlement. Pour arriver maintenant, alors que nous, on arrivait avec des dessins irregardables à l'époque, il n'y avait qu'un dessinateur, deux dessinateurs. Maintenant, il y en a tant qu'on veut, parce que tout le monde veut faire de la bande dessinée.
C'était le 1er janvier 1975 à la télévision belge. Quatre grands noms de la bande dessinée, quatre monstres sacrés, presque on pourrait dire, JG, Maurice, Franquin, et celui qui est peut-être le moins connu des quatre, Willy Maltête, bien sûr, qui signait les aventures de Tiff et Tondu, je l'ai dit, à partir de 1949, qui était au dessin. Il y avait des scénaristes, alors on va parler bien sûr un petit peu de scénariste, mais un mot, Blutch, peut-être sur le dessin de Will. C'est un dessinateur de l'école Spirou, de l'école de Marcinelle, comme on peut dire, avec un dessin en rondeur, du mouvement, un goût pour les décors, les intérieurs, les voitures, plein de choses.
Oui.
Est-ce que vous sauriez caractériser le dessin de Will?
Immédiateté, élégance.
Immédiateté.
Naturelle. Au mois de septembre dernier, au festival BDFIL de Lausanne, a été organisée une petite exposition autour de Tiff et Tondu, qui regroupait des planches de notre album, quelques-unes, et des planches de Will. Et alors les planches de Will dégagent une force, un naturel, ce que moi j'appelle une immédiateté, qui moi m'a semblé éclatant. Je suis resté en arrêt devant ces pages, économie de moyens, pas de bavardage, on parle graphiquement.
Graphiquement.
Hein. Ouais. Pas de bavardage inutile, pas de traits parasites, la pureté du pionnier, vraiment, hein, y a ce côté-là. Quand j'ai commencé ce travail, mon propre travail sur Kiki, je recherchais un peu, moi, cette pureté. La pureté des pionniers, je ne l'ai pas trouvée parce que c'est illusoire. Ou peut-être la pureté de l'enfance, ou de l'enfance de l'art, mais je n'y suis pas arrivé. Mais eux, ils y arrivaient sans réfléchir. Sans effort, on va dire, apparent, sans transpiration. Et moi, ces planches, elles m'ont vraiment paru lumineuses, vraiment. En noir et blanc, en plus, elles éclataient. La couleur trahit des fois un petit peu le dessin. Là, le dessin était là, nu, en noir et blanc, dans cette exposition. Et ça, c'est une des premières fois que je voyais vraiment des planches de Will exposées. Et ça m'a fait vraiment un effet... sans coquetterie et sans fausse modestie, je ne me sentais pas, on va dire... À ce niveau-là, en tout cas. Mon travail, moi, à mon sens, il sent la transpiration. Il sent l'effort. Il sent de sous les bras, quoi. Alors que lui, non.
Et pourtant, dans l'archive qu'on a passée, on a coupé un peu dedans. Et alors, c'était Maurice qui disait, qui avait un jugement sur les jeunes dessinateurs de bande dessinée, mais qui disait, nous, on recommence 3 fois, 4 fois, 5 fois certaines planches, et ouais. Tout le monde semblait d'accord. C'était quand même des travailleurs, ces dessinateurs.
Mais pour ma part aussi, hein, je recommence.
Oui, bien sûr. Non, voilà.
J'ai pas la voix de ces gens-là. J'aime bien leur voix parce que c'est la voix de nos pères. C'est des gens qui fumaient des brunes, qui mangeaient de la viande rouge et qui buvaient des whisky dans des verres carrés, ce que nous on fait plus. Et on le sent dans leur voix. Ouais, j'aime bien leur voix. J'aime bien ces voix de 75. Mais pour ma part, oui, je recommence. Maurice aussi, hein, était très très dans son dessin. Il y avait une fantastique expo Lucky Luke il y a 2-3 ans à Angoulême, avec des magnifiques planches originales. Il a aussi une rapidité, une aisance. En tout cas, le dessin a aussi cette immédiateté, que j'ai senti chez Will. Je vois pas d'autre mot, en fait, pour définir ce lâcher prise, en fait.
Donc l'immédiateté de Will pour le dessin de Tiff et Tondu.
Ouais.
Je disais que Tiff et Tondu étaient devenus eux-mêmes à partir du moment où Will arrivait au dessin. Au début, avec Fernand Diner, c'était un peu plus hésitant, y compris dans le style. Il y a une deuxième étape importante dans la structuration de ces personnages de Will et Tondu, c'est l'arrivée au scénario de quelqu'un dont on a déjà parlé dans cette émission, il faudra faire un jour une émission sur lui, c'est Maurice Rossy qui est arrivé au scénario en 1954. Alors Robert, puisque c'est vous qui signez le scénario de cette nouvelle aventure, je voudrais vous demander un mot sur les grands scénaristes de Tiff et Tondu. Il y a Maurice Rossy, et puis ensuite, à partir d'un moment, il y a eu Thieux, puis ensuite Desberg, chacun pour une douzaine d'aventures. Est-ce que pour écrire cette histoire, vous vous êtes replongé dans tous vos Tiff et Tondu?
Non, je voulais pas polluer l'esprit avec... Pas polluer l'esprit, mais je voulais rester sur l'enfant que j'étais, sur le souvenir de l'enfant que j'étais. Et j'ai surtout pas voulu en relire. J'en ai relu après, évidemment, mais pas avant, non. Non, je préférais sauter dans l'histoire tout de suite. Nous deux, Tiff et Tondu.
Et alors, il y a... À nous trois. Il y a des personnages, donc Maurice Rossy a fait naître en particulier le personnage de Monsieur Choc, qui est un des grands méchants de la bande dessinée. Ce personnage qui ne figure pas dans votre livre. Thieu, lui, dès sa première ou deuxième aventure, fait apparaître un personnage qui est dans le titre de votre livre, Kiki, donc la comtesse Dieu. Alors ce personnage, c'est un personnage féminin d'abord, ce qui était toujours assez rare dans la bande dessinée des années 60. C'est un personnage qui était important. Celui-là, vous l'aimiez, vous vouliez qu'il soit parmi les protagonistes de cette histoire.
Comme on n'a pas eu le droit d'utiliser Choc, évidemment, je ne pouvais pas me passer de Kiki. C'est quand même ces quatre personnages-là, ils sont quand même absolument liés, les méchants et les trois gentils. Et je ne pouvais pas ne pas utiliser Kiki. Et puis je pense que Blutch, il voulait dessiner Kiki. Moi, je suis là pour servir Blutch.
Comment on dessine Kiki, Blutch? Elle ressemble à Mireille Darc un peu?
Mireille Darc, Monica Vitti. J'ai jamais réussi vraiment à me mettre d'accord sur ce point. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à l'animer. Je pensais que ce serait le personnage qui me serait le plus facile à dessiner, à représenter, parce que je la sentais très bien. Et pour moi, elle fait vraiment partie. Elle fait partie du charme de cette série. Ce personnage que je trouve émouvant, vibrant. Le contraire d'une poupée gonflable, elle est très charnelle, très vivante, on va dire, et présente. Et les rapports qui s'installent entre les trois personnages, je les trouve... je parle de la série classique. Hein, le rapport qui s'installe sous la plume de Thieu entre les trois personnages est pour beaucoup dans la séduction que j'ai pour Tiff et Tondu, depuis l'origine. Hein, même. Et donc, comme je la sentais bien, je pensais que je la représenterai facilement, et en fait c'est un personnage qui se laisse pas attraper comme ça, et je la trouve mouvante. Comme on dit dans le jargon du métier, je l'ai pas tenue tout à fait. Des fois, elle penche vers Darc, que vous citiez, des fois elle penche vers Vitti, des fois il y a ce côté un peu Forest, il y a un côté Barbarella.
Oui,
il y a quelque chose que j'ai pas trouvé, je trouve, avec Kiki.
Toujours gracieuse en tout cas, si vous la tenez pas, vous lui laissez une part d'élégance.
J'ai eu bizarrement, curieusement, j'ai eu beaucoup de facilité à représenter les héros titres, Tiff et Tondu. Vraiment, alors eux, tout de suite, j'ai eu une grande facilité à les interpréter. Elle, j'ai eu plus de mal à la jouer, quoi.
Alors parlons de Tiff et Tondu, justement. Comment est-ce qu'on les interprète? Qu'est-ce qui est important de garder quand on fait Tiff et Tondu?
Mais vous parliez tout à l'heure de Playmobil, et donc ils ont un côté Playmobil schématique. D'ailleurs, c'est assez remarquable avec leurs yeux ronds, là, leurs billes.
Point noir. Hein.
Ouais, j'aime beaucoup d'ailleurs, j'aime bien dessiner ça. J'aimais bien ça quand Will faisait ça. Donc ils ont ce côté aussi schématique, aussi rudimentaire que des Playmobil. D'ailleurs, c'est un peu... Si on y réfléchit, c'est grotesque. Un personnage qui s'appelle Tiff, qui est chauve, le personnage qui s'appelle Tondu, le même, chevelu, bon voilà.
En dessous, c'est vraiment le même.
Mais moi, mon travail, ce qui est amusant, ah oui, c'est vraiment les mêmes, c'est là, des calques, voilà, mais c'est le même dans un miroir. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est de leur donner justement l'épaisseur. C'est de leur donner une présence physique, du poids.
Alors justement, vous leur donnez véritablement, vous y parvenez à mon avis, à leur donner cette épaisseur. Et dans l'épaisseur que vous leur donnez, on sent que vous avez voulu peut-être les caractériser un peu. Ils n'ont pas tout à fait, il m'a semblé, la même façon de bouger, la même posture corporelle.
Oui.
Tiff est peut-être plus souple, plus il est habillé aussi avec souvent un col roulé, un chandail. Ouais. Il a quelque chose de plus de rondeur. Tondu porte un peu plus le poids du monde sur ses épaules. Il a des rides, a peut-être un peu plus de rides. Il a d'ailleurs à certains moments des lunettes de presbyte.
Ouais.
On sent que le poids des années, les soucis sont plus importants et vous avez voulu le...
Non, mais ce sont des hommes faits, ce sont des hommes mûrs.
C'est ça.
Ce sont des hommes qui ressemblent à ceux qu'on a entendus tout à l'heure dans l'émission de 75. Ce sont des hommes issus de ce monde-là. Tiff est plus sport, on va dire, comme on disait à une époque. Il est plus sport, il est plus décontracté.
C'est ça, ouais.
L'autre, Tondu, est en costume.
Plus cravate gain. À bout carré.
Voilà, et moi je pensais... Oui, moi je pensais à notre père qui portait à un moment des cravates, tu sais, tricotées à bout carré.
Ouais.
Donc oui, je pensais à notre père quand même, je l'avais un peu en ligne de mire, je me souvenais de ses blousons, et voilà, de la forme de ses pantalons. Et pour les caractériser, bah, j'avais certaines figures en tête, Tondu, le barbu, sérieux, eh bien j'ai pensé à Lino Ventura.
Ouais,
j'ai pensé à Ventura, sérieux, boudeur.
On voit peu Ventura, avec la barbe, Ventura.
Ouais, non, mais Ventura dans La Gifle, tu, ou dans ce film de Boissé que j'ai regardé 2-3 fois pendant que je faisais le bouquin, Espion, lève-toi de 81. Et il est un peu habillé comme Ventura pouvait être habillé au tournant des années 70-80 dans ces films-là. Donc j'avais Ventura, j'avais aussi mon ami Francky Ballonnet en tête. Tiff, oui, un côté sport, décontracté. Bizarrement, j'avais en tête Tony Curtis dans Amicalement Vôtre.
Alors ça, c'est leur caractéristique graphique et leur différenciation.
Bah, tout est là pour moi, là, sur ce travail-là en tout cas.
Absolument.
Puisque je suis juste interprète.
Alors Robert, au niveau du scénario aussi, dans l'existence de ces personnages tels qu'ils apparaissent dans le roman dont on va parler et dans cette bande dessinée Mais où est Kiki, vous les avez différenciés aussi, ils n'ont pas tout à fait le même caractère. Tiff, qui est plus léger, plus sport, comme disait Blutch.
Déconneur.
Il est plus déconneur, plus gourmand, plus furteur aussi.
Oui, mais dans mon souvenir, ils étaient comme ça.
Donc vous n'avez pas cherché à
accentuer le trait. Si, bien sûr, pour les faire un peu plus vivants. Je voulais qu'on voit, je ne sais pas, vous voyez ces vieux couples qui se connaissent depuis 80 ans, qui se chicorent tout le temps, mais qui sont bien foutus de vivre l'un sans l'autre. Et ben, je voyais ça en faisant Tiff et Tondu.
Parce qu'on dit parfois que ces personnages de bande dessinée de ces années, Spirou ou d'autres, ces figures de vieux garçons aussi, parce que c'est un peu des vieux garçons, Tiff et Tondu.
Je ne sais pas, ça ne regarde pas.
Voilà.
Si ça se trouve, ils sont mariés. Non, mais j'en sais rien, ils font ce qu'ils veulent.
On ne sait pas s'ils habitent ensemble.
On ne sait pas, ils s'habitent peut-être ensemble, oui.
Alors en revanche, vous leur donnez un métier. La question du métier, ça c'était toujours comment on gagne sa vie. Alors on peut être reporter à la Tintin, c'est-à-dire c'est un métier sur la carte de visite. Là, Tiff et Tondu, vous en faites des justis romanciers.
C'est une idée de Blutch.
C'est la seule idée que j'ai amenée d'ailleurs au début du projet. J'ai dit à mon frère, voilà, est-ce que ça t'intéresserait d'écrire cette histoire de Tiff et Tondu ? Je pense qu'il faut les typer. Il faut qu'ils aient une place dans la société. Et je trouvais ça aussi dans le prolongement de ce qui avait été fait par Will, Tilleux et Rosie, le fait qu'ils soient écrivains. Parce que des fois, c'est un petit peu, j'ai l'impression que c'est un peu esquissé. Quand même, dans les albums classiques, on va dire, et un peu à la manière de duos célèbres comme Boileau et Narcejac. Je les voyais comme ça. Et j'ai pensé aussi pas mal à Pierre Bellemare. Ouais, parce que la littérature populaire, les bouquins comme Bellemare en faisait là, sur les grandes énigmes voilà, les choses comme ça. Je pensais à ça. Ce sont des écrivains populaires. Et voilà, c'est la seule idée que j'ai amenée à mon frère.
Pour moi, l'écrivain populaire des années 80, c'est Paul Lucelitzer. Et donc, j'ai pensé à lui. Je me suis dit, tiens, ils écrivent des conneries comme ça, mais ce n'en est pas. Des livres, voilà, je pensais à Paul Lucelitzer.
Alors, vous avez poussé l'idée jusqu'à publier, il y a quelques mois, chez Dupuis, un roman de Tiff et Tondu. Donc, il est signé Robert et Blutch. Sous-titré un roman de Tiff et Tondu, son titre c'est L'Antiquaire Sauvage, et c'est donc une histoire racontée, écrite par Tondu, qui est donc, on l'a dit, un peu le plus sérieux des deux, celui qui travaille le plus à sa table.
Celui qui écrit.
Celui qui écrit.
L'autre, il travaille, mais différemment.
Je voudrais lire un tout petit extrait de cet Antiquaire Sauvage pour montrer un peu le style, qui à mon avis n'est ni tout à fait celui de Paul Lussuitzer, que je connais mal, ni peut-être plus celui de Boileau et Nerse-Jacques. J'ai plutôt pensé à d'autres, on va en parler un petit peu après. Je voudrais vous en lire un tout petit bout. La nuit est tombée sans prévenir, amenant avec elle un petit crachin dégueulasse. La route à nid de poule qui mène au château de Messancourt tourne autour d'une campagne désolée. On traverse en trombe des forêts de feuillus détrempées, des pâturages en jachère, sans croiser âme qui vive. Au détour d'un bosquet de châtaigniers, les phares accrochent soudain une grille en fer forgé. Pas de garde, j'observe. Par ces temps, ce n'est pas tellement étonnant, fétif. Nous continuons sans nous arrêter. La route longe le parc du château. On ne distingue pas grand-chose, des tuiles, une cornière. La vue est gâchée par une épaisse futaie, puis par un mur de 3 mètres de haut. Nous roulons encore un bon kilomètre avant de faire demi-tour. Tiff coupe les phares et refait la route en avançant presque au pas. Je retourne à l'arrière de la camionnette, enfile le casque audio et pousse le bouton vert. Je me suis d'abord, je dois dire, régalé à la lecture de ce roman. Et j'ai trouvé, moi, ces quelques lignes me faisaient plutôt penser dans l'atmosphère, aussi bien à Léo Malek, qu'à Simenon, peut-être aussi à certains moments, un petit peu à, même parce qu'il y a aussi de l'humour, des jeux de mots. J'ai noté, il n'avait pas l'air commode, même s'il en avait la largeur. Alors ça, c'est, on peut penser à Simonin ou à San Antonio, parce que d'ailleurs, au tout début, ça commence par « il est en Sana ». Alors ça fait San Antonio, qui est souvent surnommé Sana, ça peut faire un peu ça. Et puis presque aussi, même si c'est pas tout à fait noir, à manchette, avec ses phrases courtes, très descriptives, comme ça. Donc, une écriture aussi assez visuelle, ces phares qui accrochent le portail en fer forgé. Là, on est tout à fait dans l'ambiance de Tiff et Tondu, avec souvent des scènes nocturnes, des torches, des phares de voiture. Comment est-ce que vous avez pensé ce style de Tondu, Robert? C'est votre style à vous?
Oui, ça sort comme ça. J'ai pas le choix, en fait. Enfin, là-dessus, j'ai pas le choix, je sais pas.
Vous avez été un lecteur de polar?
Bien sûr, oui, oui. Bah, tous ceux que vous avez cités, je m'en suis gavé. Simenon, Manchette. Je conseille à tout le monde de lire son journal. Mais vous savez, j'ai pas le choix, hein, quand j'écris, je suis devant mon ordinateur, ça sort comme ça, et si ça me plaît, bah, ça reste comme ça.
Et cette écriture visuelle, alors Blotch, il faut dire que ce roman, donc L'Antiquaire Sauvage, se termine par une scène de cambriolage, on peut le dire, sans tout dévoiler, qui est la première scène de la bande dessinée Mezu et Kiki, que vous publiez ce mois-ci. Donc il y a une sorte d'imbrication de roman dans la bande dessinée, puisque Tiff et Tondu ont écrit ce roman et ils le dédicacent au début, après cette première scène de cambriolage. Ça reprend comme ça, c'était une idée.
Il est question du roman dans la bande dessinée. Voilà. Et ce roman, nous l'avons écrit et vraiment, réellement.
Et cette première scène alors, puisque quand on a lu le roman avant, ce qui n'est pas obligatoire, on peut lire Mezu et Kiki,
oui, bien sûr.
J'ai l'impression, sans avoir lu L'Antiquaire Sauvage.
Et inversement.
Et inversement, bien sûr. Moi, je conseille de lire les deux dans l'ordre, c'est ce que j'ai fait et c'est vraiment très, très jouissif. Alors cette première scène, justement, on sent que vous... Enfin, elle est remarquable, c'est une scène de cambriolage nocturne, muette, chez un antiquaire. On sent que vous vous êtes absolument régalé. Je ne sais pas si c'est le mot, je ne sais pas si on peut vous dire ça. Blotch a dessiné cette scène qui se termine par deux personnages cagoulés qui enlèvent leur cagoule et qui sont Tiff et Tondu.
Oui.
On le savait bien, mais...
Oui. Bah, moi, je suis moins féru, moins connaisseur en roman noir que mon frère, qui est une encyclopédie vivante de ce genre. Mais j'ai relu énormément Simenon au moment de commencer ce livre. Pas mal de Maigret, mais pas que. Et j'ai essayé de singer, on va dire, cette atmosphère-là, ce climat, en fait. Je me suis aussi replongé dans Tardy, Malais.
Oui, absolument. Ouais.
Un de mes bouquins, là, que j'avais en ligne de mire, c'était 120 rue de la Gare.
Il y a ces vues pluvieuses de Paris. Il y a ces...
Oui. Bon, je travaille pas comme Tardy. J'ai pas la même. De certaine manière, j'ai pas la même place que lui. C'est un album très resserré, Tiff et Tondu. Hein, pour parler cuisine, là, on est sur 4 bandes. Il y a des planches où on tourne autour d'une 12, 13, 14 cases. Donc, j'ai peu de place pour que le dessin s'étale. Donc, on est très serré. C'est une bande dessinée assez dense. Donc, il a vraiment fallu que je me débrouille pour être le plus évocateur possible. En ayant le moins d'espace à ma disposition. En tout cas, oui, je régalé, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai essayé d'interpréter le morceau le mieux possible.
Voilà,
le plus justement possible. J'ai essayé d'être juste. pas faire de fausses notes, donc de pas être évasif, de pas bâcler, de pas éluder certaines questions embarrassantes comme les véhicules, que c'est une chose que je suis pas du tout à l'aise hein, de représenter, ou certaines parties de décor, etc. Je me suis dit, bah, il faut que j'attaque tout là, il faut que j'attaque légère par la face nord.
Et vous, Robert, est-ce que vous avez dans cet espace resserré aussi, ces 78 pages, est-ce qu'il a fallu mettre un certain nombre d'ingrédients, parce qu'il y a des scènes d'action, il y a quand même le temps de dessiner certaines scènes d'action qui se déploient en longueur, puis il y a aussi des moments plus contemplatifs, des dialogues avec un SDF sur le trottoir, on prend le temps d'un beau dialogue assez savoureux, et puis il y a du fantastique, il y a un robot, il y a une cape d'invisibilité.
J'avais un cahier des charges.
Voilà. Alors qui vous venait
personnel,
d'où
personnel, hein, personnel. Personnel. Oui, dans ma tête. J'avais un cahier des charges.
Il fallait un peu de merveilleux.
Il fallait un peu de fantastique. Il fallait, oui, et scènes de voiture, parce que moi, quand je pense à Tiffé Tondu, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est les courses-poursuites en voiture. Enfin, c'est les dessins de Will des voitures extrêmement. Enfin, pas que je m'intéresse spécialement en voiture, mais
vivantes.
Elles sont super bien dessinées. Mmh. Enfin, voilà, oui, j'avais un cahier des charges. Et j'ai tout mis. J'ai réussi à tout caser.
Et alors, est-ce que cette histoire, non pas cette histoire aura une suite, mais est-ce que Tiffé Tondu par Blotch et Robert, ça va continuer ou...
Non, mais d'ailleurs, il faut que je m'inscrive en faux.
Oui.
Par rapport au début.
À ce que j'ai dit au début,
genre. Oui, parce que vous avez parlé de reprise.
Cette manie
pas une reprise.
Des reprises.
Non, c'est une relecture. Pour moi, en tout cas,
c'est pas la même chose que.
C'est unique. Je crois pas que je serais capable d'animer une série parce que j'ai pas le professionnalisme pour ça. Vous savez, c'est même un mot que j'ai du mal à. un classique vu par. Mais je pense que
ça
l'intérêt
de ensuite de vos variations un petit peu que vous avez
pour moi c'est ma dernière variation. C'est ma variation quand j'ai fait l'album Variation il y a 2 ans, je savais bien que Tiffé Tondu viendrait clore ce chapitre-là. C'est-à-dire c'est la variation échelle 1. Je recopie pas, je ne refais pas juste un passage.
Non, pas une planche.
C'est un album entier. Et je pense que ça clôt cette partie de mon travail là. Pour moi en tout cas en tant qu'auteur, dessinateur, il faut pas que je me laisse piéger par la facilité. Il faut que j'aille fureter et renifler, voir ce qui se passe un peu ailleurs.
Donc ce Mais où est Kiki restera un moment unique dans les variations autour de Tiffé Tondu. Peut-être qu'il y aura d'autres variations, ça c'est le travail de l'éditeur. En tout cas, une magnifique réussite. Merci beaucoup Blotch et merci Robert
merci à vous
d'être venu. Je rappelle donc le titre de cette aventure, Mais où est Kiki, qu'on peut lire après avoir lu ou non le roman de Tiffé Tondu, L'Antiquaire Sauvage. Je rappelle aussi le travail remarquable de Dupuis autour de Tiffé Tondu et la parution le 10 janvier du tome 4 de l'intégrale. Une intégrale dans laquelle figure notamment l'histoire Choc au Louvre, qui a été mise en musique par Philippe Deschepper. C'est ce que nous écoutons comme générique de fin. Et je signale aussi la parution chez Nifl d'une édition commentée et en noir et blanc d'une aventure de Tiffé Tondu, L'Ombre sans corps, la première histoire avec Maurice Thieux au scénario. Tous ces livres seront sur la page internet du Rayon BD sur franceculture.fr, une page sur laquelle vous pouvez réécouter et télécharger cette émission et toutes les précédentes. Comme chaque semaine, cette émission était préparée par Pascaline Bonnet, Marie-Laure Ciboulet était à la réalisation aujourd'hui et Alexandre Dang à la technique. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Aurélie Luneau pour le magazine de l'environnement de Cause à Effet.